Radio Campus, Radio Béton, Radio Active en direct du festival Désir Désir.
Nous sommes toujours en direct du cinéma Les Studios à Tours pour une émission consacrée à la 27e édition du festival de cinéma Désir Désir avec Radio Campus et Radio Béton et Radio Active. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et à présent je vais laisser la parole à Antoine qui est stagiaire en médiation culturelle à Radio Campus et qui a réalisé une série de portraits d'artistes locaux LGBTQ. Antoine, je te laisse nous expliquer ton projet.
Du coup, j'ai créé une série de portraits qui s'appelle Potemkin, le podcast cuirassé, dans le cadre de mon stage, qui est une série de 5 portraits sonores d'artistes LGBTQ locaux, comme tu le disais, qui s'intéressent au cinéma, au théâtre, aux arts plastiques, à la photographie et à la musique. Donc du coup, j'ai interrogé ces artistes locaux pour savoir quel était leur rapport à leur genre et à leur sexualité dans leur art, savoir qu'est-ce qu'ils y mettaient, s'ils mettaient aussi de leur identité dans leur art, parce que parfois l'identité sexuelle n'entre pas dans ce domaine. Quelle était la part de militantisme aussi, s'ils étaient dans des associations, si c'était directement aussi dans leur art. Mais j'ai aussi demandé leur avis sur le thème de cette année de Désir Désir, les exodes. Parce que certains, comme on a pu l'entendre aujourd'hui de Nicolas Spina, sont concernés par ce thème, les exodes. Et aujourd'hui, on va écouter, là tout de suite, on va écouter Mégane Charpentier, qui est une artiste, qui est une étudiante, qui est à Talm, donc l'école des beaux-arts de Tours, et qui est justement en art plastique.
Potemkin, le podcast cuirassé.
Ici Antoine Basset, vous êtes sur Potemkin, le podcast cuirassé. Potemkin est une série de portraits sonores d'artistes LGBTQ tourangeau, réalisé dans le cadre du festival Désir Désir pour Radio Campus Tours. Bonne écoute!
Bonjour Mégane.
Bonjour.
Mégane, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ?
Eh bien, j'ai 21 ans. J'ai 22 ans d'ailleurs. J'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans. Je suis en première année d'école d'art.
Donc Mégane Charpentier, hein, on va préciser ton nom de famille aux auditeurs. T'es en première année d'art. T'as fait des choses avant ?
J'ai une licence de lettres. Donc j'ai passé 3 ans à Tours en littérature.
Et d'où vient ce choix de passer de la littérature à l'art plastique ?
Au lycée, j'étais partagée entre les arts et la littérature. Je savais pas où aller. Et il y a toujours eu ce choix, en fait, où je me suis dit, il va falloir un jour que tu choisisses entre les deux. Du coup, après le bac, je suis allée en littérature parce que c'était plus simple d'aller en littérature qu'en art. Mes parents savaient pas trop où ça allait mener en art. Du coup, ils ont préféré la stabilité. Voilà, je pourrais être plus protégée en littérature. Du coup, j'ai été en littérature. Ça s'est très bien passé. J'étais très bien en littérature. Mais après ma licence, j'ai commencé un master et je me suis rendu compte que ça allait trop vite, que j'étais jeune et que là, dans 2 ans, je pouvais être prof, ce que je voulais de base. Et du coup, je me suis dit, pas tout de suite, t'es jeune, t'as 22 ans. Du coup, je me suis arrêtée et j'ai dit, au pire, j'ai toujours mon diplôme. Fais de l'art, va dans une école d'art et vois ce que tu peux faire avec ton art. Parce que je dessine et je fais de l'art depuis longtemps, mais c'était à côté, quoi, à côté de mes études. Du coup, je me suis dit, fais de l'art. Vois ce que ça peut donner. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah t'arrêtes et tu continues dans la littérature, en fait.
Et du coup, pourquoi les arts plastiques ?
Eh ben, il y avait les arts appliqués et les arts plastiques. Et les arts appliqués, c'était vraiment dessiner pour une marque. C'était, on va te demander, dessine pour un paquet de gâteaux, un bonhomme, voilà, pour être vendu. Et les arts plastiques, c'est vraiment, voilà, l'art dans toute sa forme. C'est pas obligatoirement figuratif, c'est vraiment dans l'abstrait, tout ça. Et moi, je captais pas trop... Bah, l'abstrait, quoi. Quand j'allais voir dans les expos, tout ça, moi, quand c'était pas figuratif, je me disais, mais elle veut dire quoi, ta tache rouge au milieu de ton fond blanc, tu vois. Et du coup, je me suis dit, aller aux Beaux-Arts, ça va me permettre d'apprendre tout ça, de développer l'abstrait que t'as en toi et que tu connais pas forcément. Et voilà, de travailler l'art plastique, et au final, c'est vraiment ce qui me correspond le plus. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert, enfin, pour moi, hein, mais voilà, que les arts appliqués.
Quand on regarde ton Instagram, tu te présentes comme une activiste militante queer pansexuelle. Tu peux nous décrypter un petit peu ça ?
Oui, alors je suis pansexuelle. Du coup, pansexuelle, c'est ne pas être attiré par un genre en particulier, à la différence de bisexuelle. On est plus attiré par les hommes ou par les femmes, mais en tout cas, le genre a une importance, alors que moi, c'est vraiment plus la personne. C'est pas l'intelligence, c'est vraiment si j'ai le feeling avec la personne, quoi. Peu importe son genre, peu importe à quoi elle ressemble. C'est vraiment la personne en elle-même. Et du coup, j'ai mis activiste parce que c'est vraiment une grosse partie de moi quand même dans tout ce que j'exprime, tout ce que je veux faire ressortir de mon travail ou même pas dans le travail. J'espère dans ma vie avoir des actes militants parce que je pense que c'est important de faire avancer les choses, que beaucoup de gens se rendent compte des choses. C'est quand même quelque chose de vraiment important dans la société, d'ouvrir les yeux à certaines personnes. Et c'est pour ça que je me considère comme militante.
Tu t'es dit directement que tu étais pansexuelle ou tu as pensé d'abord « je suis bisexuelle » ?
Non, en fait, c'est au lycée. Je sortais avec des garçons et je me suis dit je serais très ouverte à sortir avec des filles, 6. Et du coup, je me suis dit « ça veut dire que je suis pas hétéro ». Mais c'est pas un jour j'ai eu un déclic, je suis pas hétéro, c'est ça me dérangerait pas de sortir avec une fille. Au départ, c'était vraiment en mode test, et après je suis sortie avec des filles, et je me suis rendu compte que je pouvais tomber amoureuse, donc que j'étais vraiment pas hétéro, que c'était pas juste des tests dans la vie. Et après je me suis dit que j'étais vraiment pas attirée soit par les filles, soit par les hommes, j'étais attirée juste par les personnes. Parce que j'ai vu que peu importe ce que la personne avait entre les jambes ou non, j'en avais rien à faire, c'était vraiment le feeling avec la personne. Où là je tombais vraiment amoureuse, donc je me suis dit donc c'est pas bisexuel, parce que bisexuel on me disait vraiment que c'était les garçons ou les femmes, et moi ça avait vraiment aucun impact dessus quoi. Du coup j'ai été voir les définitions et j'ai vu que pansexuel c'est ce qui m'allait le mieux, donc je me suis dit alors je suis pansexuel.
Comment tu l'exprimes dans ton art ?
J'exprime pas forcément la pansexualité dans mon art, c'est pas vraiment, vraiment ça que j'exprime. Il y a des choses où les personnes sont pas forcément renseignées, comme la transidentité, et du coup je vais plus en parler que par exemple si j'étais lesbienne, j'en parlerai un peu moins parce que les gens sont un peu plus renseignés là-dessus, même s'il y a encore plein de choses à apprendre. Du coup je vais parler plus de ça, mais je vais pas parler en jeu parce que je suis pas trans, mais je vais essayer d'aller voir des personnes trans, de les prendre en photo et de faire voir cet art-là pour que du coup les gens soient plus renseignés là-dessus, parce que là c'est un gros manque, comme les personnes intersexes ou ça, c'est vraiment les personnes que je veux aider, parce que c'est une face cachée vraiment que beaucoup de personnes ignorent en fait. Donc je vais essayer de montrer ça dans mon art, parce que je me dis si quelques personnes le voient, c'est déjà pas mal, même si mon art est pas connu dans le monde entier. Ce que je peux faire au moins, c'est de faire connaître, que les gens se posent des questions, voient mes tableaux, voient mes photos et se disent ok je savais pas. Et ça c'est intéressant, parce que si je vais prendre deux garçons cis homosexuels qui vont s'embrasser, les gens vont faire d'accord, très bien, mais ils savent déjà. Donc là, je veux vraiment montrer la plupart du temps dans mon art les choses que beaucoup de personnes ignorent encore.
Donc c'est une sorte de passage de connaissances, pas qui te concerne directement, où tu te sens concerné.
Oui, voilà, c'est ça. Donc je veux me battre pour ça, mais je suis pas forcément concernée, même si parfois je vais exprimer ma pansexualité, mais c'est vrai que beaucoup moins que les causes que j'estime encore moins connues. Hein.
Tu fais aussi de la photographie, tu viens de nous dire.
Oui.
Est-ce que tu utilises ensuite ces photos dans une œuvre, ou est-ce que la photographie est une œuvre en soi ?
Je pense que déjà oui, quand une photo est prise, c'est une œuvre en soi. Mais du coup, je vais l'utiliser pour la montrer, parce qu'il y en a beaucoup qui font leur art et qui le laissent chez eux. Et moi, c'est vraiment la plupart du temps, c'est pour montrer quoi. Et je préfère quand une œuvre a un acte politique, enfin un acte militant derrière, où ça percute quoi. Je trouve que l'œuvre est plus forte et ça va nous faire réfléchir. Et ça, c'est vrai que j'aime bien et je vais le développer, parce que là, je suis en première année et je commence à faire quelques œuvres militantes, mais pas tout. Il y a vraiment des choses où c'est juste je recherche un peu le beau, je suis en train de voir un peu le plâtre, l'argile, voir ce qu'on peut faire avec le bois, on peut utiliser des matériaux pour faire ça, mais il n'y a pas encore la finalité militante, elle viendra après. Là, pour l'instant, c'est des idées que j'ai et que je veux mettre en œuvre plus tard.
C'est appréhender le matériel.
Voilà, c'est ça. On a fait des cours de photos, donc je vais pouvoir prendre des photos des personnes trans. J'ai pour projet de prendre deux personnes trans opérées, du coup, sans poitrine, et deux personnes trans non opérées, avec poitrine, mais les quatre restent des hommes. Et du coup, je veux les prendre en photo tous les quatre et l'exposer.
Je sais que tu t'intéresses aussi beaucoup au cinéma.
Oui.
Le cinéma est quand même un média qui sert à justement enseigner, comme c'est ton désir. Toi, t'as déjà pensé à soit faire du cinéma ? Je crois que tu as étudié le cinéma.
Oui, j'ai étudié le cinéma et puis je vais souvent au cinéma, je suis passionnée par le cinéma depuis longtemps. C'est pareil que dans mon art en fait, je vais être autant touchée par des films qui vont être dramatiques ou tragiques sans avoir d'acte politique, et complètement fascinée par les films qui ont vraiment l'envie de faire passer un message, politique ou non, où on va vraiment comprendre que le réalisateur il veut faire passer quelque chose, transmettre quelque chose de fort, et ça c'est incroyable dans les films touchant au genre, à la sexualité, tout ça. Il y a notamment Danish Girl, où vraiment le message est super fort et c'est 120 battements par minute, les films comme ça où vraiment ça touche quoi. C'est vraiment fort et c'est des films comme ça que j'aime vraiment voir et qui vont marquer. Et c'est un peu dans ce style-là que je veux travailler dans l'art quoi.
Tu parlais d'en fait d'être militante par l'art. Est-ce que tu as aussi d'autres actes militants en faisant partie d'associations, en participant à des marches?
Oui, je faisais partie du centre LGBT de Touraine. J'y suis toujours, mais ils veulent pas qu'on soit vraiment tout le temps présent. Donc je reçois toujours les mails, je suis toujours là si besoin. Mais c'est vrai que là, avec mon emploi du temps, j'ai beaucoup moins de temps. Du coup, j'avais participé à l'organisation de la Pride à Tours l'année dernière. Sinon, là-dedans, je fais beaucoup de marches aussi. Donc contre la violence faite aux femmes, j'ai fait plusieurs marches pour le climat. J'ai fait quoi aussi comme marche? Mais je fais beaucoup de marches dès que je peux, en fait. Dès que je peux participer à une marche, je vais la faire. Et je pense que le militantisme, il y a aussi militer tous les jours avec les gens qu'on côtoie, en fait. Que ce soit nos amis, notre famille. En fait, faut jamais abandonner. Faut jamais se dire, bon, au pire, ils ont pas compris, ils ont pas le même âge, ils sont pas du même milieu, donc on abandonne. Faut toujours, sans violence, expliquer, dire, écoute, ça, je te reprends là-dessus, mais c'est pas dit correctement. C'est, dès qu'on entend un mot qui va pas ou une phrase qui va pas, on explique, on dit, bah non, en fait, maintenant, on dit plus ça. Maintenant, moi, là, depuis le début de l'année, je commence à le faire. Dès que je vois des mots qui vont pas, je vais vers la personne et je dis, bah alors ça, on le dit plus, ça, machin. Et dès qu'on me dit, bah pourquoi? Je dis, en fait, pense que ça peut blesser des personnes si tu penses comme ça. Et à partir du moment où tu blesses des personnes, bah dis-le pas. Dis-toi pas, oh mais moi je m'en fiche. Dis-toi, ça peut blesser des personnes, donc le dis plus et dis plutôt ça. Et je pense que c'est ça le militantisme, c'est de vraiment militer tous les jours. Tous les jours, on se lève un matin, on entend un truc qui va pas, bah même si on connaît pas, on dit excuse-moi si je peux me permettre. Je prétends pas tout savoir, mais il y a des choses que je sais. Et du coup, si je peux te les transmettre et après tu peux les transmettre à ton tour, bah ça fait déjà un bon travail quoi.
Est-ce que toi, tu aurais des modèles de personnes militantes qui t'ont justement inspiré à être aussi politisé et aussi actif?
Bah, en vrai, ce qui a vraiment développé mon militantisme, c'est d'abord ma famille qui était très fermée là-dessus. Et moi, je me suis ouverte un peu toute seule, en vérité, avec beaucoup les réseaux sociaux et côtoyer des personnes qui étaient déjà au courant de tout ça. Et du coup, j'ai cherché malgré moi à sensibiliser ma famille, à rectifier ce qui allait, ce qui allait pas, à ouvrir plus leur esprit sur ces choses-là, faire comprendre que c'est important et que c'est nécessaire en fait pour la santé des personnes, donc pour moi, pour mon frère et puis pour tous mes amis que j'ai rencontrés après. Et après voilà, c'était les familles de mes amis, c'était mes amis qui se sentaient mal aussi, qui étaient blessés par le soutien inexistant de la part de leur famille. Après c'était la société, donc tous les droits qu'on nous refusait, des trucs complètement logiques en fait. On nous refusait de fonder une famille, on nous refusait le mariage, on nous refusait d'être heureux en fait. Et voir des gens qui militaient contre notre bonheur, je trouve ça quand même incroyable, parce que manifester pour des droits, pour quelque chose qui nous touche nous, ok, mais manifester contre le bonheur des autres, contre le mariage homosexuel, je me suis dit, il y a quand même des gens qui vont se lever le matin, manifester pour empêcher les gens d'être heureux. Et ça, c'est quand même incroyable, parce que de toute façon, ça les touche pas. Et ça m'a révoltée, en fait. Il y a eu vraiment une haine et un besoin de le dire. C'est pas « je dois être militant », c'est en moi depuis longtemps. C'est parti de là, je pense, de voilà, les droits bafoués, les choses qu'on nous accorde pas. Et après, j'ai rencontré des amis militants qui m'ont expliqué les bons termes, parce que moi j'avais des termes complètement mauvais au départ, je comprenais pas, voilà. Et ils m'ont expliqué ces termes-là, je leur ai posé des questions, je leur ai demandé comment on milite, est-ce qu'il y a des choses à faire, comment je peux faire pour me faire entendre, pour faire entendre ce que je pense. Et du coup ils m'ont expliqué ce qu'eux faisaient, ils m'ont expliqué les termes, ils m'ont expliqué tout ça, et du coup ça a développé mon militantisme, ça a augmenté, je sais pas, le savoir que j'avais là-dessus, parce qu'avant c'était minime, et après bah, plus je me suis renseignée, je préférais me renseigner avec des personnes qui militaient que sur internet, où c'est pas toujours la définition exacte, donc j'ai rencontré des amis et qui m'ont aidé là-dedans en fait.
D'où ton envie ensuite de faire la même chose avec l'art.
Ouais voilà c'est ça. L'art, c'est nécessaire pour moi de faire passer quelque chose de politique. Pas tout le temps, c'est pas dans toutes mes œuvres, ça se ressent pas dans toutes mes œuvres, mais c'est quand même quelque chose de très important pour moi de faire passer ça. Et comme l'art, je le maîtrise, pas me vanter, mais j'essaye des choses, je veux que ça se ressente là-dedans, quoi. J'aime bien qu'on s'arrête devant mon œuvre et qu'on fasse « Ah d'accord, ça je savais pas, je viens d'apprendre quelque chose, quoi ». Parce que c'est vraiment mon but premier, c'est d'apprendre des choses. Quand j'ai une discussion avec quelqu'un où je lui explique quelque chose et qu'il me dit à la fin « D'accord, j'avais pas compris ça, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, d'accord, bah, je vais faire attention et je vais faire ça comme ça ». Et ben là, je me dis « Bon, bah, j'ai réussi, quoi ».
On utilise aussi son corps dans l'art. D'où je suis, je vois que tu as énormément de tatouages. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de te faire tatouer, de te faire graver dans la peau des choses qui comptent ?
Pour moi, c'était une évidence, vraiment. Depuis toujours, je me suis même pas imaginé la représentation d'une personne tatouée. Oh, moi, je vais être comme ça pour les gens. C'est pas la personne tatouée que je voulais montrer, c'est la personnalité. Tous mes tatouages ont une symbolique. Même si je sais qu'on peut se faire tatouer juste parce qu'on trouve une fleur belle, on le fait tatouer pour que ce soit beau sur notre corps. Mais moi, ils ont tous une symbolique parce que je trouvais important pour moi d'exprimer des traits de personnalité, des choses qui vraiment comptent vraiment beaucoup pour moi sur la peau. Ça fait partie de moi et du coup, quand on le voit pas, c'est comme si j'avais plein de choses à l'intérieur et que j'étais une feuille vierge à l'extérieur, quoi. Et pour moi, ça, c'était pas possible. Il fallait que je montre les choses vraiment qui me tiennent à cœur. Donc, il y a des tatouages sur des films, il y a des tatouages sur des personnes qui me sont chères, il y a un tatouage que je vais faire avec mon frère. C'est pour moi, je suis obligée de montrer ça. Je suis obligée de montrer des traits de ma personnalité à l'extérieur, quoi. Parce que ça fait partie de moi et pour moi, c'est obligé que ce soit voyant.
Cette année, le festival Désir Désir a pour thème l'Exode. À quoi ça correspond pour toi ?
L'Exode, c'est quoi ? C'est
l'obligation de partir de quelque part.
Voilà, c'est partir de quelque part. C'est je suis en train de voir, c'est une sorte de voyage, l'Exode, de voyager, entreprendre une marche vers quelque chose, partir vers quelque chose.
Ben, plutôt partir de quelque chose, souvent. Ouais. Par exemple, les demandeurs d'asile qui sont obligés de fuir à cause de leur orientation sexuelle. On peut aussi penser aux femmes qui sont obligées de fuir la France pour aller faire des PMA dans des pays où c'est légal. Est-ce que tu as des inspirations vis-à-vis de ça ?
Non, mais je pense que c'est bien parce que déjà, c'est bien qu'on se pose des questions sur le thème et que ce soit pas clair pour tout le monde, que justement tout le monde se dise « Ah oui, d'accord, c'est intéressant, dans quel sens on peut le tourner, quoi ?» Du coup, je trouve ça intéressant et je pense que chacun a sa définition, il va sortir une définition différente. Du coup, je trouve ça super intéressant. Et si justement, ça peut permettre à montrer qu'on a besoin de partir pour se sentir bien, on peut pas juste dire et que ça se passe bien et que rien ne change. Il faut entreprendre tout un cheminement en fait pour que ce soit accepté. Parce que l'exode, c'est quand même quelque chose de fort. On a l'idée un peu de s'exclure des choses. Et du coup, c'est quand même assez fort.
On s'est interrogé avec certains invités sur la nécessité d'avoir toujours un anagramme LGBTQ+. À ton avis, est-ce que cet anagramme est toujours d'actualité ou est-ce que les frontières commencent à s'effacer, sont toujours utiles ?
En fait, on utilise LGBT pour aller plus vite, mais c'est vrai que du coup, il n'y a pas que LGBT. Et c'est pour ça qu'on va dire plus, mais dans le plus, il y a des tonnes de lettres. Pour moi, le genre, c'est comme un spectre de couleurs, en fait. Il n'y a pas qu'une ou deux couleurs, ça va être vraiment un dépliant. Les genres, ce sera infini, en fait. C'est pour ça que quand des gens me disent... Mais nous, on croyait qu'il n'y avait que lesbiennes et gays. Et en fait, le reste, c'est un peu des inventions. C'est j'ai déjà entendu ça. Ils vont essayer de se caractériser en fonction d'eux. Et il y a des termes pour eux. Il y a des termes qui vont correspondre à que 2-3 personnes. Et du coup, pourquoi utiliser plein de termes ? Mais c'est qu'en fait, il y a un panel de genres incroyable. Et on n'aura jamais, à mon avis, tous les mots exacts pour se définir. Là, j'ai des amis qui sont en train de se questionner sur le genre. Du coup, ils me posent des questions et ils se disent « Mais alors, je me sens ni homme ni femme. Donc ça veut dire que je suis pas dans un genre. Donc ça veut dire que je suis non-binaire. » Mais ils vont dire « Je vais préférer m'habiller qu'avec des vêtements dits masculins dans la société. » Du coup, qu'est-ce que je suis ? Non-binaire, ça devrait dire pas appartenir à un genre, donc des habits neutres, mais moi je veux quand même avoir l'apparence d'un homme, mais je suis attirée que par les femmes, donc ils sont un peu perdus, quoi. Ils se disent, du coup, qu'est-ce que je suis ? Et il y en a plein qui vont se dire, c'est quoi l'importance de se définir ? Parce qu'au final, on est tout ce qu'on est et on devrait dire, je suis, c'est tout, point. Mais il y a des gens pour qui ça va de dire, je suis. Donc ils vont se dire, je suis queer, par exemple, je suis là-dedans, mais je sais pas exactement, il y a trop de choses pour que je me définisse, parce qu'ils vont regarder tous les genres, toutes les définitions de genre, et ils vont se dire, en fait, il n'y en a aucun qui me correspond vraiment. Du coup, ils vont se dire queer. Mais il y en a qui ont vraiment besoin de se dire, je suis quelque chose. Donc, ils vont regarder tous les genres, et ils vont se dire, bon, on va se mettre dans la définition de ce qui nous correspond le plus, mais pour eux c'est hyper compliqué parce qu'il y a beaucoup de détails, quoi. Il y a beaucoup de j'aime jouer avec mes vêtements, en fait le vêtement n'a rien à voir, mais mon genre si, mais mon ressentiment c'est pas pareil, parfois je veux prendre des vêtements dits féminins et à l'intérieur je me sens homme, mais comment l'expliquer aux gens, comment me genrer, est-ce que ma sexualité a quelque chose à voir là-dedans. Il y a plein de gens qui vont se dire Il y a des hommes qui vont se dire « je veux m'habiller avec des vêtements dits féminins, mais je me sens cis, je suis un homme cis, je suis en accord avec mon genre d'homme, et par contre, je suis attirée par les femmes. » Et tout le monde va dire « ah bah non, tu t'habilles en fille, donc ça veut dire que tu es gay. » Mais c'est des choses qui ont été dites dans la société, qui sont trop carrées. Il faudrait vraiment faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas d'étiquette et que ceux qui ont besoin d'étiquette, c'est que les personnes qui ont besoin de se genrer. Mais le reste, enfin, le monde n'a pas besoin de savoir les étiquettes de chacun. Il faut juste accepter. Et si on dit si une personne veut se faire genrer féminin, on l'écoute, peu importe son style. Parfois, c'est « je veux faire genrer féminin ». Bah pourquoi t'as un style pourtant masculin ? Pourquoi tu fais ça ? Mais il n'y a pas de pourquoi, c'est juste « ok ». On devrait dire « ok, d'accord, pas de souci ». Sinon, ça peut blesser la personne, donc pourquoi chercher ailleurs ? Du coup, voilà, c'est... La question de genre, elle est assez compliquée, mais pour moi, voilà, le genre, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un panel de genres et ça se terminera jamais. Mais je trouve ça important qu'on se définisse quand même notre communauté par une appellation, quoi. Parce que sinon, on fait comment ? La communauté, quoi ? Du coup, la communauté LGBT, c'est connu. Et tout ce qu'on a trouvé, c'est de mettre un plus à la fin, quoi. Parce que tous nos genres sont pas explicables, donc notre nom sera pas explicable non plus. On peut pas faire un nom à rallonge sur les pancartes ou tout, sur les noms à rallonge, c'est pas possible, quoi. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver ce que tu fais ?
Je pense que je vais créer un compte Instagram pour mes œuvres. Là, je ne l'ai pas créé pour l'instant parce que je n'ai pas encore assez confiance en moi dans ce que je fais. C'est en train de se faire. Et là, je suis en train de faire des choses où je prends plus confiance en moi. Du coup, je me dis la prochaine fois, je la ferai. Je vais commencer à mettre ça sur des comptes Instagram.
Merci beaucoup, Mégane. Et on se retrouve bientôt dans le prochain Potemkin, le podcast Queerassé.
Retrouvez Potemkin en podcast sur le site radiocampustour.com.
Merci Antoine, on peut donc retrouver cette série de portraits sur Radio Campus. Il est 18h et c'est l'heure du flash à présent sur Radioactive. En attendant, les auditeurs de Radio Campus et de Radio Béton vont pouvoir écouter Praise the Lord du groupe Grande, qui fera d'ailleurs l'objet d'un portrait d'Antoine qui sera diffusé également sur Radio Campus. On va écouter aussi Ballroom de Stash McQueer qui sera en concert pour clôturer le festival Autant Machine le 7 février. A tout de suite.
For years, I'm in a mess. I am a mess. Oh, please don't try to fix me. I will praise the Lord for a new heart. Stamina, no saliva, no love, no fearless days, no sense of care, no hope. I will praise the Lord for a new heart.
Just a minute, but you love it, but delicious, looks like a girl crush, she's a betting, she's sherry, but pacified, Christmas be the right, just a minute, but you love it, but delicious, looks like a girl crush, she's a betting, she's sherry, I'm pacified. Bruce, Bruce, baby, right?
The ball.